les jardinières.
Bon réveil et bienvenue chez les jardinières, retour des lève-tôt qui apprécient le jardinage. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
On débute cette nouvelle année avec celui avec qui nous l'avions terminé, Olivier, bonjour.
Et bonjour à vous.
Olivier Ribaud, rassurez-nous, vous êtes rentré chez vous entre-temps.
Ah oui, quand même, je n'ai pas dormi ici.
Vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. Merci d'être avec nous ce matin.
Et si personne ne vous l'avait encore souhaité, bonne année de la part de l'équipe des jardinières. On est ensemble jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Les fêtes sont terminées, mais peut-être que vous avez encore votre sapin et vous ne savez pas quoi en faire. Alors Olivier, si une ville en Belgique proposait de manger son sapin, et c'était pas une blague, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Oui, alors comme tu l'as dit, on en voit encore un petit peu. Tous les sapins n'ont pas été démontés encore pour le moment. Comme on l'en a parlé à la dernière émission de l'année passée, la seule chose la plus facile, c'est de les emmener à des places de compostage qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les communes de notre canton. Donc c'est le plus simple et le plus facile. Certaines villes ou certains villages organisent aussi des petits ramassages pour ce genre de choses, mais sinon le composter, c'est au plus simple et la meilleure solution.
Merci Olivier, vous êtes l'invité des jardinières jusqu'à 8h et vous êtes là aussi pour répondre aux questions jardinage de nos auditeurs. Composez le 0900 70 20 20 et vous poserez votre question en direct à Olivier. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire disponible sur notre site. Et puis troisième possibilité, nous écrire un SMS, vous tapez jardin un espace suivi de votre question et de votre nom. Et vous nous envoyez ce message au 939.
Ce matin, Olivier, pour cette première émission de 2025, vous allez tout nous dire sur les arbres à feuillage marcescent. On en parle juste après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie d'Olivier Ribaud, nous allons parler d'arbres, mais pas n'importe lesquels, les arbres à feuillage marcescent. Alors pour commencer, Olivier, et pour ne perdre personne en route, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un arbre à feuillage marcescent ?
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un petit peu le sujet qu'on a discuté ensemble quand on s'est contacté cette semaine. C'est venu un peu par hasard avec la discussion d'une personne. Ces arbres marcescents, on en trouve chez nous, c'est simple. C'est les arbres qui gardent leur feuillage de l'année et qui sèche, qui fait la partie de l'automne, qui va comme mourir. Et puis ces feuilles restent accrochées après l'arbre et puis elles resteront sur la plante jusqu'au printemps. Alors, du débourrement du nouveau bourgeon. Donc c'est un arbre qu'on voit en forêt, qu'on voit chez nous, dans différents endroits, des haies, où c'est que le feuillage est tout sec, tout brun, on a l'impression qu'ils sont morts, mais en fait c'est un terme qui est utilisé dans notre jargon botanique qui s'appelle marcescent. Donc c'est vraiment le terme qui définit ces arbres qui sont en feuilles sèches maintenant, qu'on voit dans nos jardins. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de vous expliquer au tout début année ce mot qui tourne autour de ces plantes qu'on pense qu'elles sont mortes, mais pas du tout.
Mais alors, quelles sont les espèces d'arbres marcescents les plus courantes dans notre région ?
Alors justement, on les trouve fortement chez nous, peut-être plus qu'encore à d'autres régions. Donc je dis chez nous, c'est dans toute la Suisse, même l'Europe. Donc il y a trois arbres qui ont ce phénomène particulier qu'on verra un peu par la suite pourquoi et comment. Et donc on trouve le charme pour faire des haies, mais bon, bien sûr, le charme existe aussi en arbre, en forêt, en bordure de forêt. Donc le charme, le hêtre et aussi beaucoup le chêne. Donc ces trois arbres de forêt de chez nous qui sont des arbres indigènes qui sont ces plantes qu'on peut appeler marcescents.
Et pourquoi certains arbres conservent-ils leurs feuilles mortes pendant l'hiver ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite au printemps ?
Alors ces feuilles, elles vont rester sur l'arbre. On va un petit peu expliqué tout au long de ça, mais on va plutôt parler des arbres jeunes. Ça veut dire que si on va en forêt maintenant, puis qu'on regarde les hêtres qui sont grands, qui sont adultes, ils n'ont plus de feuilles. Les feuilles sont tombées un peu tardivement, oui, ça c'est vrai, mais les arbres jeunes qui se trouvent dans les sous-bois, dans les lisières de forêt, donc les hêtres, bien sûr, mais aussi ces chênes et ces charmes, ils ont encore leur feuillage qui n'est pas tombé. Alors c'est un phénomène que la plante a adaptée pour différentes raisons qu'on verra encore après, mais c'est ces trois essences et puis qu'on trouve surtout sur les arbres d'effet jeune, pas des vieux arbres.
Et Olivier, est-ce que le fait que les feuilles restent accrochées tout l'hiver a un effet particulier sur l'écosystème environnement, notamment pour les oiseaux ou la faune ?
Oui, alors bien sûr, on va parler de ça aussi en disant qu'un arbre qui a son feuillage, donc il va pouvoir abriter des nids d'oiseaux plus facilement qu'un arbre qui est tout nu, donc ça protège des courants. On va aussi utiliser ces arbres, je vais prendre la haie de charme qu'on utilise beaucoup maintenant dans nos villes, dans nos jardins, puis dans nos maisons, parce que c'est une haie de plantes indigènes, donc qui va résister à toutes les conditions climatiques qu'on a déjà évoqué dans des émissions passées, donc le chaud, la sécheresse, ce genre de choses. Donc c'est des arbres qui s'approvisionnent bien chez nous dans nos contrées, et puis ils vont pouvoir protéger de courants de bise, par exemple. On sait que la semaine prochaine il va faire très froid, et bien des personnes qui ont des haies de charme, ça coupe vraiment le courant. Donc ce feuillage va être utile pour plusieurs choses, pour la faune, mais aussi pour nous, la personne qui aura utilisé ces haies bien appropriées à des bons endroits.
7h, 8h, les jardinières.
Contrairement aux végétaux caducs qui perdent leurs feuilles en automne, les arbres marcessants retiennent leurs feuilles desséchées jusqu'au printemps. On découvre justement ces arbres ce matin en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-en-Truy. Alors, si ça reste une curiosité botanique, le phénomène de garder ses feuilles a des avantages pour l'arbre. Olivier, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors tout à fait. C'est, comme tu le précises, c'est une curiosité botanique parce que on voit un arbre de même essence. Donc, si je prends le charme, un jeune charme ou un charme qui est ancien, qui est adulte, eh bien, le jeune va garder ses feuilles et pas l'adulte. Plusieurs recherches ont été faites autour de ça. Je me suis aussi un petit peu renseigné et puis un petit peu instruit, hein, parce que je dois dire que je dois aussi encore apprendre un peu des choses. J'ai un peu regardé ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour ça. Donc on a déduit que les jeunes arbres, à l'automne, les arbres ils vont développer dans la plante une partie pour dire maintenant c'est l'automne et il faut faire tomber les feuilles pour passer l'hiver. Et les jeunes arbres, ils le font, mais ils le font plus tard. Ils n'ont pas le temps de le faire jusqu'à la période des froids. Et puis après, ben, ces feuilles restent crispées après l'arbre. Et puis, elles vont tomber quand le bourgeon du printemps, quand la sève est repartie. Et ben, c'est à ce moment-là que la plante va faire gonfler son bourgeon. Et puis, ça va décrocher ces feuilles qui seront restées sur les jeunes arbres du printemps. De l'hiver.
Alors, il y a des avantages, mais est-ce qu'il y a aussi des inconvénients au feuillage marcessant ?
Oui, alors bien sûr, les avantages, c'est que ça va protéger le jeune arbre pendant l'hiver de ses ennemis. Par exemple, on sait qu'on trouve beaucoup d'animaux sauvages dans les forêts, les chevreuils par exemple, et bien ils ne vont pas se nourrir de ces feuilles sèches parce que ça ne les intéresse pas, mais par contre il y aurait les bourgeons qui seraient bien prononcés puis bien visibles, et bien là ils iraient les manger. Donc les feuilles sèches vont protéger les jeunes arbres durant leur vie, surtout au début quand ils seront jeunes. Et puis après, ben, les désavantages, c'est, j'irais plus dans le monde privé, que maintenant on a utilisé ces arbres pour faire des haies dans des jardins publics ou bien chez soi. Eh bien, au printemps, ces feuilles vont tomber. Et puis, on aura dit, bon, ben, on a ramassé les feuilles à l'automne, c'est bon. Et ils vont tomber, mais ils ne vont pas tomber en une fois, comme on voit à l'automne. Tout d'un coup, on a des grands tas de feuilles à ramasser. Ils vont tomber, si le printemps va démarrer gentiment, ils vont tomber sur une plus longue période. Donc, on aura des petites feuilles sèches qui vont durer beaucoup plus longtemps à ramasser dès les beaux jours du printemps.
Et Olivier, petite question comme ça, si ça nous énerve, ces feuilles mortes qui tombent au printemps, on peut les enlever de l'arbre ? C'est pas une bonne idée ?
Non, alors je dirais que si l'arbre a décidé de les garder, c'est qu'il y a quand même une raison pour la plante. Et puis après, ben, c'est quand même un certain travail. C'est toujours des arbres avec des petites feuilles. Donc ces feuilles sont restées sèches. Je dirais même que ceux qui ont l'habitude d'avoir des hêtres à la maison, quand on les ramasse au printemps, elles sont venues tellement sèches, tellement dures, tellement tellement crispés comme ça que ces feuilles, quand on les met au compost, il leur faudra aussi beaucoup, beaucoup plus de temps pour se décomposer. C'est pour ça que des fois, on les broie un peu pour que les feuilles de hêtre soient plus faciles à composter. Mais ces feuilles ont leur rôle de protection des jeunes arbres pendant l'hiver et c'est un effet naturel qu'on s'est habitué très facilement.
Et pour ceux qui auraient envie de planter un arbre à feuillage marcescent, lequel conseillez-vous de planter dans un jardin privé ?
Alors bien sûr, on a cité les trois plus connus, donc trois arbres d'essence de forestière de chez nous. On a aussi le Parotia persica, qui est l'arbre de Perse, qui fait aussi un peu ce phénomène. Dans un autre jargon, on va l'arbre de fer, ça s'appelle aussi. Donc c'est un arbre qui ressemble beaucoup au hêtre, qui fait une très belle couleur d'automne et qui garde ses feuilles aussi très très longtemps pendant l'hiver. Donc c'est un peu plus ornement, je dirais, mais sinon, dans les trois végétaux indigènes de chez nous, le charme est beaucoup, beaucoup utilisé, de plus en plus, et on va contre l'utiliser encore de plus, justement, parce que on a des haies qui sont vivante, ça veut dire qu'en été on a un beau feuillage vert clair, à l'automne ben, il va faire la transformation d'automne et pendant l'hiver on a cet effet de feuillage sec, on dirait mort, mais qui donne quand même de la visibilité un petit peu à travers les haies et puis qu'au printemps eh bien, ça revient tout vert et on sent que la haie elle est vivante contrairement à une haie de laurier qui reste vert toute l'année ou une haie de thuya qu'on ne met plus parce que ça fait très synthétique, très plastique je dirais, mais les haies de charme sont vraiment des vivante et sur des petites parcelles où c'est qu'on a peu de place, eh bien c'est vraiment des plantes qui sont très bien adaptées pour ça.
Vous l'avez dit, malgré le fait qu'ils gardent leurs feuilles, on voit quand même un peu à travers l'hiver, mais alors si ces arbres qui ne perdent pas leurs feuilles gardent une visibilité, c'est pas forcément une bonne idée pour cacher la vue du regard indiscret des voisins.
Oui, mais si on utilise le charme, et comme tout le monde en a déjà vu des haies, on les taille une fois par année, donc pendant même la période d'été, ils vont refaire des jeunes pousses, donc même la structure de la haie est très compacte, et c'est là qu'on retrouve aussi cet effet où c'est que les branches, les feuilles font des brise-vues, mais des brise-vents, des brises pour casser la bise, et on trouve aussi beaucoup d'animaux, d'insectes, d'oiseaux qui viennent se nicher là-dedans, parce que c'est des endroits qui sont très bien protégés pour les courants.
Les jardinières.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant chez Les Jardinières, première édition de 2025. Nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. On parle d'arbres à feuillage marcescent avec notre invité et bien sûr nous allons répondre à vos questions jardinage.
Des questions que l'on attend par téléphone au 0900 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Olivier. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières et joindre une photo à votre demande ou alors simplement nous écrire un SMS en tapant un jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Olivier, vous nous avez parlé des haies de laurier, des haies de charme qui sont des arbres à feuillage marcescent qu'on peut avoir dans son jardin. Est-ce que ces arbres à feuillage marcescent se marient avec d'autres essences d'arbres qui ne le sont pas, donc marcescent? Est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux?
Oui, alors tout à fait, ils s'entendent bien entre eux. Je vais juste encore préciser que on a parlé un peu des lauriers pour donner des exemples. C'est une haie que on ne plante plus aujourd'hui parce que c'est une plante qui a été, je dirais, éradiquée des
blacklistée,
des listes,
comme on dit.
Voilà, justement. Donc ça ne peut plus être planté du laurier. On trouve un peu son frère ou sa sœur qui est similaire, c'est les photinias. Donc ça, on trouve qu'on peut mettre avec un feuillage persistant, comme tu le dis. Donc ça peut être planté. Par contre, pour rester sur le sujet des plantes qu'on a définies jusqu'à maintenant, dans ces feuillages marcescents, donc le charme, le Carpinus betulus dans son nom latin, c'est vrai que c'est vraiment la plante la plus utilisée en haie, mais on utilise aussi beaucoup les Fagus sylvatica, donc c'est du hêtre. Le hêtre, c'est une plante qui se comporte très bien si on veut faire une haie. Il faut savoir qu'un hêtre vient grand en forêt, on le voit, donc on peut faire des haies assez haute si on en a besoin. À certains endroits, on peut faire des haies de 3 à 4 mètres de haut. Et après, elles peuvent être taillées au carré, comme on fait une haie standard. Et on utilise aussi beaucoup le hêtre rouge. C'est un arbre qui a le feuillage qui est pourpre, rouge, qui est utilisé beaucoup plus encore en haie, qui a aussi ce même phénomène de feuillage marcescent. Il faut savoir que le feuillage, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est quand la pousse, elle est jeune, l'arbre, il est jeune, que ce feuillage reste accroché. Donc, on verra bien qu'avec le temps, les haies, on doit les tailler. Donc, si on taille sa haie de charme ou de hêtre très tard dans la saison, ça veut dire que si on la taille en septembre, octobre, on va couper la branche, les ramifications de l'année. Donc, on va perdre cet effet marcescent. On va avoir coupé les branches où il y aura les feuilles. Donc, ceux qui taillent, c'est un avantage parce qu'on aura moins de feuilles au printemps. Mais si on veut utiliser ce phénomène pour cacher la vue ou cacher les courants, comme on l'a défini avant, eh bien, on va tailler nos haies en saison d'été, pendant les périodes juillet, août, et la plante va refaire une petite pousse avec des nouvelles feuilles, et ces feuilles seront jeunes, justement, et vont rester accrochées après la haie, et puis qui vont faire ce phénomène qu'on recherche pour faire des coupes-vues. Alors, on peut mélanger, d'après la question de départ que tu m'as demandé, on peut mélanger des plantes de ce type avec des arbustes autres indigènes. On peut mettre des troènes, on peut mettre des viornes, on peut mettre différentes autres plantes qui, eux, vont perdre leurs feuilles très rapidement en automne, qui vont nous ramener des puits de lumière dans nos parcelles, dans nos endroits. Et puis, on va utiliser ces plantes marcescentes pour faire des coupes vues si on a un endroit en deux voisins où il y a la terrasse, où il y a la véranda, où il y a les fenêtres de la maison d'à côté. Donc, on va utiliser ces plantes, on va disposer ça à la plantation. Donc c'est un choix qu'il faut faire avec une personne compétente, je dirais, quand vous aménagez vos alentours. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va mettre ces plantes au bon endroit, à la bonne place, pour qu'elles soient utilisées à bon escient dans le futur de leur plantation.
Du coup, il faut être prudent quand on s'attaque aux tailles de printemps ou d'automne. Pas se tromper, ça peut être dangereux pour l'arbre à feuillage marcescent.
Alors, pour l'arbre, ça ne sera pas dangereux pour lui. Il va toujours repousser parce que c'est des arbres qui sont aussi très vigoureux, très forts. Mais en sachant que si vous voulez garder l'effet marcescent, donc on ait ce feuillage, comme je l'ai dit avant, eh bien, il ne faut pas les tailler au mois d'octobre parce que là, on va enlever la branche avec les feuilles et puis il y aura plus d'effet couverture pour la période d'hiver. En sachant toujours que j'insiste, on en a parlé au début, c'est l'avantage aussi pour justement les coupes vent, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique pour cacher de la bise. Avant, dans les vieilles périodes, il y a longtemps, on plantait beaucoup des sapins aussi pour faire des haies. Justement, ça venait grand et puis ça coupait bien les courants. Vu que le thuya, on ne l'utilise plus, le laurier non plus. Donc, ces plantes-là sont vraiment devenues très appropriées pour ça.
Et Olivier, pour les personnes qui n'aiment pas du tout ramasser les feuilles mortes, les arbres marcescents, c'est la solution?
Alors justement, on a dit, si tu les tailles trop tard en automne, tu n'auras pas de feuilles mortes au printemps. Et bien sûr, mais il faut savoir que même un fautignat qui garde ses feuilles pendant l'hiver, on a ce phénomène au printemps où c'est qu'il va faire un renouvellement de son feuillage. Ça veut dire qu'il y a quand même les anciennes feuilles de l'année d'avant ou de deux ans qui vont tomber et les nouvelles pousses qui reviendront auront des nouvelles feuilles. Donc ça s'appellera pas marcescent, mais c'est renouvellement du feuillage. On aura quand même toujours des feuilles à ramasser, plus ou moins, ça c'est clair. Mais ces feuilles, ces arbres qu'on a parlé jusqu'à maintenant, sont toujours avec des feuillages petits, fins. On en ramasse peut-être le 50%, mais beaucoup de feuillage reste au sol, fait une couverture du sol, va être utilisé aussi après pour redonner des matières organiques dans le sol sous la haie. Donc des fois, on va juste les pousser au pied des arbres, au pied des haies, et on va pas forcément les ramasser, ou alors elles vont être ramassées dès les premiers beaux jours avec les tondeuses quand on fera les pelouses et comme ça. Donc c'est pas un gros désavantage, non, pas du tout.
Et pour conclure, Olivier, y a-t-il des conseils que vous donneriez aux personnes qui souhaitent, après vous avoir écouté, planter des arbres à feuillage marcescent dans leur jardin?
Je crois que j'ai tout dit, non?
Ouais, c'était bien, non, c'était bien
non, mais
concis.
Les Les conseils, c'est voilà, c'était un petit peu le but de l'émission, c'était pour faire comprendre ce que c'est ce phénomène de feuillage mort, mais qui n'est pas mort pour tout le temps sur une plante. Et c'est des arbres qui sont utilisés couramment. Donc j'ai en tête plusieurs haies visuelles chez des clients. Je reprends mon fagus rouge, donc mon hêtre rouge. C'est aussi des haies qui sont très belles. C'est un petit peu plus onéreux à la plantation. Le charme, c'est quelque chose qui est quelque chose de courant, qui est des prix très corrects. Donc, on peut faire des très rapidement et très facile. Il est facile à gérer parce qu'on peut le tailler même deux fois par saison. Donc, c'est si on taille deux fois, c'est des petites tailles et qui peuvent être faites par n'importe qui avec des petits taillers électriques. Donc, par contre, si on se laisse prendre, c'est des plantes qui poussent relativement vite et grandes. Donc, il faut savoir gérer. Et puis, quand on aura eu une année où c'est qu'on se sera fait avoir parce qu'on ne l'a pas taillé, on sait que les années suivantes, il faut faire attention. Mais sinon, c'est des plantes qui sont très faciles pour nos conditions de chez nous.
7h, 8h, les jardinières.
7h46 chez les jardinières. Il n'est pas trop tard pour poser vos questions jardinage. On va vous rappeler comment faire, Brian.
Et oui, vous avez toujours trois possibilités. La première, c'est par téléphone. Vous composez le 0900 70 20 20 et vous parlerez en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la chance de joindre une photo à votre question. Ou alors simplement nous écrire un SMS en tapant jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Olivier, cette question qui parle de catalogue. J'ai reçu un catalogue pour commander des graines pour le potager. Et si je les commande maintenant, comment dois-je les stocker jusqu'à leur utilisation ?
Oui, alors c'est quelque chose qui est devenu un peu courant. On reçoit ces petits catalogues où c'est qu'on peut faire ses propres petites commandes. Ça, c'est assez simple. Faites attention surtout de choisir un petit peu aussi des choses qui sont adaptées à notre région. Des variétés aussi. Je vois beaucoup de catalogues passer avec des couleurs de tomates qui passent vraiment bientôt par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faites attention, il y a quand même aussi dans ces catalogues des images qui sont été un petit peu, pas modifiées je dirais, mais qui sont quand même pas toujours réalistes. Donc commander, c'est bien, commander des petites quantités pour faire ses essais et puis après ben, pour pas en avoir de trop parce que ça fait vite beaucoup de plantes et pour sa propre consommation. Et puis après pour les stocker, je dirais c'est aussi très simple, il faut garder toujours les graines, même si vous avez des graines de l'année d'avant ou si vous en avez commandé trop cette année pour l'année prochaine, il ne faut pas qu'elle soit restée dans la maisonnette de jardin où c'est que la température comme maintenant descend à 0 degré ou même en dessous. Donc il faut garder ces graines à des températures ambiantes où c'est qu'il fait entre 10 et 15 degrés. Pas non plus les mettre trop chaud sec parce que si on est dans un endroit qui fait trop sec, la graine va vraiment se déshydrater trop et ne pourra plus germer au printemps. Il faut quand même savoir qu'au milieu d'une graine, il y a un petit noyau qui doit reprendre de l'humidité et pour ressortir une petite racine qui doit pouvoir redonner vie à quelque chose. Donc si c'est trop sec, trop dur, la graine ne va plus germer. Donc il faut garder ça dans un endroit sec, tempéré. Et puis après, ça se passera très bien.
Merci beaucoup, Olivier. On va vous retrouver juste après une pause musicale pour la suite et la fin de cette émission des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
7h53 chez les jardinières. Le temps file et il est presque l'heure de dire au revoir. Mais Olivier, avant de vous laisser partir, dites-nous, par ce froid, que peuvent faire les amatrices et amateurs de jardinage ces prochains jours ?
Alors justement, on pense toujours qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans notre métier à ces périodes, mais on a parlé de faire ces petites commandes de graines, ça c'est une chose. On n'oubliera pas on a le sol qui n'est pas très gelé encore à part en surface, mais j'ai des personnes qui ont planté la semaine passée, qui planteront encore la semaine prochaine des arbres fruitiers à racines nues. On a eu aussi la discussion de ce thème là il n'y a pas très longtemps, donc c'est des plantes à faire. On peut déplacer ces plantes, comme on avait aussi fait une émission là-dessus. Donc c'est vraiment des périodes où c'est que Tant qu'on peut aller dehors et puis qu'on peut creuser le sol, il y a quand même deux, trois travaux dans les arbres à faire pour déplacer, replanter ou tailler. Mais j'avais aussi un petit sujet à donner comme conseil à nos auditeurs. Pour ceux qui ont des jardins privés, on sait que souvent on cultive au même endroit. Notre jardin est défini, il est carré, il fait 3 mètres sur 3 et c'est cette zone-là. Donc il faut savoir qu'on va être obligé d'y ramener de la matière organique, donc des éléments nutritifs. Moi, quand je dis de la matière organique, on va prendre le mot qui est approprié à ça. Il faut ramener du fumier ou du compost. Mais cette période de l'année, maintenant que le sol sera gelé, c'est vraiment le fumier qui serait la meilleure chose à amener dans son jardin. Si vous regardez, vous observez le long des routes de remaniement, les paysans, les agriculteurs de chez nous vont emmener des tas de fumier qui vont sortir de l'étable, ils vont les emmener au bord des chemins, ils vont les brasser. Le fait de les brasser, c'est pour utiliser le chaud du tas pour faire la décomposition de cette matière. Parce qu'il faut savoir, du moment où c'est qu'on met notre fumier dans notre jardin, il faut compter à peu près 2 mois jusqu'à ce que la plante puisse en retirer les éléments nutritifs, donc qu'on puisse absorber quelque chose de ce fumier. Donc on est en janvier, donc prendre un fumier qui est déjà bien défait, aller demander bien sûr à la personne concernée si vous pouvez en utiliser un peu. Ces fumiers ont été brassés avec une machine, donc ça fait des petits morceaux, c'est facile à étendre, et d'en mettre une bonne couverture sur son jardin. La pluie, la neige continuera de faire le travail, ça va faire dissoudre, laver ce fumier, faire descendre ça dans son terrain. Au printemps, vous allez en mars donner un petit coup de motoculteur ou le faire à la main pour incorporer ce fumier qui aura été déchiqueté dans les 8-10 cm maximum de votre jardin. Et après ça, vous aurez planté vos premiers plantons en avril-mai de choux ou autre. Vous verrez que c'est quand même quelque chose. Si on le fait en grande échelle dans les champs, on peut le faire aussi à petite échelle dans nos jardins. Et vraiment, le fumier, c'est l'élément le plus simple, le meilleur marché. Et c'est ce qui apportera le plus de nutrition dans son sol pour avoir de beaux légumes pour la prochaine saison.
Merci Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Passez une excellente journée et puis à bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup à vous, oui, à bientôt, et on trouvera un sujet passionnant pour Mylène pour la prochaine émission.
Un sujet à creuser, je me réjouis déjà. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières, et puis bien sûr, comme d'hab, vous avez toute la semaine pour poser vos questions. Bon week-end Olivier et Brian.
Mais bon week-end Mylène.
Et bon week-end,
merci beaucoup.
Bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.